Et bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, votre magazine Sporama en direct de VOA Afrique dans les studios de Voice of America. On attend bien évidemment vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. On attend également vos appels en direct, le 001 202 205 26 33. Pardon pour la voix, un petit coup de froid, les températures qui sont en baisse ici à Washington. On va saluer nos intervenants via Skype, le rédacteur en chef de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, Thierry Kamoundi, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également à Casablanca, Amine Birouk qui est avec nous depuis le Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Avec nous également depuis Libreville, c'est au Gabon, Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on salue également à Boïcon au Bénin, Élisée Ongpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir et bienvenue au Bénin.
Et on va saluer enfin celui qui se trouve dans l'Ohio, Amdinsi. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Allez, on est ravis de vous retrouver. On va parler bien évidemment des éliminatoires de la CAN 2019 qui se déroulera en principe, vous le savez, entre le mois de juin et le mois de juillet 2019 au Cameroun. On connaît les premiers pays qualifiés. Il s'agit notamment de Madagascar qui va disputer pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations grâce à sa victoire 1-0 face à la Guinée équatoriale. On va quand même donner le nom du buteur, même si c'est pas facile à prononcer. Le héros national de cette sélection malgache, Ndjiva Rakoto Arimalala, il a marqué le seul but de cette rencontre et il a propulsé son pays pour cette CAN 2019. Du classique avec la qualification de la Tunisie et l'Égypte, la Tunisie qui a battu le Niger 2-1, l'Égypte qui a battu l'ex-Swaziland 2-0. Et puis ça va bien aussi pour vous, Amdinsi, puisque le Sénégal s'est qualifié grâce à un but tardif de Sidi Sarr. Le Sénégal qui bat le Soudan 1-0. Les Lions de la Teranga sont donc qualifiés.
Tout à fait, Nicolas Pinon. Le Sénégal qui va participer pour la 15e fois de son histoire à une Coupe d'Afrique des Nations. Cette qualification est un peu historique parce que c'est la troisième fois consécutivement que les Lions décrochent une qualification après 2015 et 2017. D'ailleurs, il s'agit d'un record pour l'actuel entraîneur Aliou Cissé. Il a réussi à qualifier l'équipe à deux CAN, ce qui n'était pas arrivé puisque il n'y a qu'un seul entraîneur qui a disputé deux CAN avec le Sénégal. Il s'agit du technicien français Claude Leroy, mais lui, contrairement à Aliou Cissé qui a quand même validé son ticket après les éliminatoires, Claude Leroy a eu à qualifier l'équipe en 90 à Alger, mais en 92, c'était le Sénégal qui organisait la CAN. Donc c'est une qualification historique pour Aliou Cissé. Maintenant, on le sait très bien, le Sénégal ces temps-ci réussit très bien les éliminatoires de la CAN, même en 2012, lors de la CAN disputée en Guinée équatoriale, à Batal, le Sénégal avait réussi un grand chelem en gagnant tous ses matchs. Mais arrivé à la phase finale, à la grande messe du football continental, le Sénégal avait concédé 3 défaites. Maintenant, il reste 2 matchs. Aliou Cissé va essayer quand même de parfaire un peu son équipe, de répondre aux critiques parce que au niveau du Sénégal, on critique l'équipe parce qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de jeu, mais les résultats sont là. Maintenant, on attend avec ces 2 matchs ce qu'Aliou Cissé va faire pour pouvoir quand même, parce que l'objectif reste de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, puisque le Sénégal n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Une seule finale jouée, c'était en 2002. Donc, on savoure cette qualification, Nicolas Pinon, mais on reste sur notre faim.
Merci beaucoup. Et le Gabon de Daniel Cousin est allé gagner 1-0 au Soudan du Sud grâce à un but d'André Bioko Poko. Le Gabon qui n'a plus qu'un point de retard sur le leader du groupe. Le Mali tenu en échec au Burundi. Jules Valentin Goué, les Panthères hein, dans un groupe a priori à leur portée qui sont en train de rattraper leur retard après des débuts brouillons. Hein.
Oui, après les débuts brouillons, ils ont saisi l'occasion qui leur était présentée d'affronter l'équipe la plus faible de la poule pour remonter au classement. Donc actuellement, le Gabon tient son destin entre ses mains et il rencontrera en dernier match, probablement pour un match de qualification, le Burundi à l'extérieur. Mais avant cela, il devra recevoir le Mali et ici à Libreville et dans un match où il faudra surtout ne pas perdre.
Merci beaucoup. Élisée Ongpatine, la Guinée qui pouvait y arriver hein, en battant le Rwanda à Kigali, mais le Sili national qui rate la marche, un but partout au Rwanda, et la Côte d'Ivoire qui n'a pas vraiment forcé son talent, un match nul 0-0 en Centrafrique. On peut quand même légitimement penser que Guinéens et Ivoiriens seront à la CAN. Hein.
Nicolas, il faut le dire, hein, on peut le dire comme ça maintenant. La Centrafrique a encore une chance d'être bon. Il y aura des matchs très difficiles. Il y aura la Guinée et puis le Rwanda. Sinon, lorsque la deuxième journée, on aura, à l'avant de la journée, j'allais dire, on aura un certain Guinée qui nous aura pour déparer les difficultés. Et puis, les amis de Guinée, ils ont battu les certains communes.
Allez, la communication est un peu difficile avec Boïcon. Pardon, on va essayer de se reconnecter avec Élisée Oungpatine. On va partir du côté du Maroc. Qu'est-ce qui se passe avec la sélection d'Hervé Renard? On avait une victoire plus que poussée, bien évidemment, à la 96e minute, il me semble, au Maroc, face aux Comores. Et ce match nul maintenant, un beau résultat pour les Comoriens, 2-2. Amine Birouk, qu'est-ce qui se passe? Quel est le diagnostic, docteur, dans la sélection marocaine?
A priori, une liste faite avec beaucoup de sentimentalisme. On avait mis en garde Hervé Renard contre les retours de bâton d'une Coupe du Monde où le Maroc avait eu un capital sympathie en termes de jeu, mais pas en termes de résultats. Il a fait dans le sentimentalisme, c'est-à-dire qu'il a sélectionné des joueurs soit en baisse de forme, soit qui ne jouent plus dans leur club, soit qui sont partis tirer fortune dans les pays du Golfe. Ça fait moins de compétitivité, ça fait des joueurs qui sont assurés d'être titulaires même s'ils ne jouent pas. Et on a vu une équipe avec un contenu très pauvre à Casablanca. On pouvait avoir peut-être comme prétexte qu'on ne connaissait pas suffisamment l'équipe des Comores. Mais trois jours après, on a eu quasiment la même copie, notamment au cours d'une première mi-temps insipide. Le Maroc a été mené au score. Il a eu le mérite de revenir dans la partie et de prendre l'avantage sur une bourre du gardien Ali Hamada. Et puis, manque de concentration, de rigueur dans les dernières secondes du match. L'équipe des Comores est venue égaliser sur le fil. Ça retarde la qualification du Maroc, elle devrait se faire. Et la chance du Maroc, c'est d'avoir que le Cameroun a réussi à ramener un nul du Malawi. Ça fige les positions avec le pays organisateur en tête, le Maroc qui fait une longueur et le Malawi qui a un retard sur le deuxième ticket qualificatif. L'équipe du Maroc va devoir recevoir dans un mois le Cameroun à Rabat ou à Casablanca, ce sera le 16 novembre prochain. Le Cameroun qui n'a jamais été battu par les Lions d'Atlas, ce sera peut-être le challenge, ça réveillera des joueurs qui se sont un peu endormis sur leur laurier et un sélectionneur qui avait signé une sorte de paix sociale avec la presse locale mais qui commence à être de plus en plus critiqué. On en revient quasiment à la période où beaucoup d'interrogations se posaient sur les motivations d'Hervé Renard et sur ses choix. On revient quasiment à la case départ. On verra si le match du Cameroun servira de déclic pour que le Maroc puisse retrouver son lustre ou bien il servira de détonateur à une nouvelle crise dans le football marocain.
Merci beaucoup. On va donner la parole à présent à l'ami Thierry Kamoundi. Thierry, évidemment la République démocratique du Congo hein, qui n'y arrive pas avec évidemment ce résultat face au Zimbabwe, un match nul, un but partout. Là encore, hein, déception hein, pour les hommes de Florent Ibengué.
Déception pour les Léopards qui n'auront finalement pris qu'un point sur les 6 possibles face aux Warriors du Zimbabwe. Après la défaite à Kinshasa, ils avaient la détermination d'aller chercher à avoir le résultat. Pourquoi pas prendre leur revanche à Harare, mais ça a plutôt mal démarré pour eux qui ont pris un but matinal par l'entremise de Biliat suite à une erreur de concentration de la défense de la République démocratique du Congo. Par la suite, les Léopards de la République démocratique du Congo ont essayé de pousser. En tout cas, ils avaient apporté et il y avait du mieux sur le terrain dans le jeu par rapport à la rencontre de l'aller à Kinshasa. C'est somme toute logiquement qu'une vingtaine de minutes plus tard, même si c'est un but contre son camp, donc c'est un but offert par le Zimbabwe. Les Léopards ont réussi à revenir dans le score, à revenir au score, pardon, mais à un but partout, ils n'ont jamais réussi à inverser la tendance et à l'emporter finalement face à des Zimbabwéens qui, même chez eux à domicile, n'ont pas forcément conservé le ballon, n'ont pas forcément fait le jeu. Ils ont laissé l'initiative du jeu aux Léopards de la République démocratique du Congo avec quelques phases de jeu par intermittence, mais dans la plupart du temps ils procédaient par des contre-attaques. Mais les Léopards de la République démocratique du Congo, malgré la kyrielle d'occasions dont ils se sont procurés dans ce 4-4-2 mise en place par Florent Ibengué avec Cédric Bakambu et Benny Kafobé à la pointe de l'attaque, ils n'ont pas réussi à
Voilà, on va retrouver évidemment Thierry Kamboundi. Merci pour cette analyse. On va vous donner également les résultats. Malawi Cameroun 0-0, Seychelles Afrique du Sud 0-0, la Tanzanie qui s'impose 2-0 face au Cap-Vert. Et avec vous, on retrouve Élisée Oumpatine, la belle victoire 1-0 du Bénin face à l'Algérie, un but de Dalmeida. Élisée, est-ce que vous nous entendez?
Oui, Nicolas, 5-5.
Alors je disais, le Bénin qui s'impose 1-0 face à l'Algérie sur un but de Dalmeida.
Je ne vous reçois pas du tout.
Voilà, alors on va, des soucis malheureusement pour joindre le Bénin. On va continuer bien évidemment, parler de Gambie-Togo, c'est intéressant. Le Togo s'est imposé sur le terrain 1-0, mais la fédération gambienne aurait déposé un recours auprès de la Confédération africaine de football concernant l'éligibilité du défenseur d'origine nigériane Adewale James Olufade, aligné lors évidemment du match, lors de la troisième journée, un match nul 1-1. Les Gambiens espèrent bien évidemment récupérer les points supplémentaires sur tapis vert. Botswana, Burkina Faso 0-0, la Mauritanie qui domine l'Angola 1-0 grâce à un but de bas. Et puis la belle victoire, je le disais, hein, du Nigeria qui est allé s'imposer 3-2 face à la Libye. On va marquer une première pause dans Sporama. On revient juste après la pub. Allez, on parle à présent du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Elle aura lieu dans un mois au Ghana, le pays organisateur de cette compétition, qui sera dans le groupe A face à l'Algérie, le Mali et le Cameroun. Dans le groupe B, Nigeria, Afrique du Sud, Zambie, Kenya. Jules Valentin Ngoué, bien évidemment, les Nigérians, un favori double tenant du titre, hein, évidemment, dans cette compétition. Hein.
Bien sûr, comme à toutes les compétitions, les Nigériens seront l'équipe à battre. Et on a vu dans le classique également que il est très possible que leurs adversaires habituels les encadrent à partir du Caridas. On voit d'un côté le Cameroun et le Ghana, et puis bien sûr de l'autre côté l'Afrique du Sud. Mais le football féminin progresse très rapidement, d'ailleurs en partie grâce au Nigeria. On espère avoir la même fête au Cameroun à la dernière édition.
Allez, on parle à présent de la Ligue africaine des champions, les demi-finales retour bien évidemment. Et on attend l'exploit du côté de l'Angola, le Primeiro de Agosto, vainqueur de la manche aller 1-0, qui va tenter l'impossible face à l'Espérance de Tunis, bien évidemment, le pays qui attend cette première finale pour une équipe angolaise. Bien évidemment, Thierry Kamboundi, on a le petit pousset qui ne cesse d'étonner. Est-ce que vous y croyez, vous?
Ah, rien n'était possible dans le foot, hein, Nicolas Pino. Hein. On a vu cette formation venir sortir le tout-puissant Mazembe Anglebert à Lubumbashi. Rien n'est impossible à partir du moment où les Angolais sont arrivés à atteindre cette étape de la compétition. Ils peuvent toujours réussir à créer l'exploit, ça sera difficile face à une très bonne formation de l'Espérance sportive de Tunis, dont j'ai encore vu le dernier match. La semaine dernière, ça sera très 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 difficile pour les coéquipiers de l'international congolais Bobo Ugenda d'aller faire le résultat là-bas, mais attendons voir. Dans tous les cas, à mon avis, hein, les espérantistes sont largement favoris sur cette demi-finale retour, et quoi qu'il en soit, Primeiro de Agosto aura fait sa saison en Ligue des Champions de la CAF, donc s'arrêter en demi-finale, ça sera déjà un honneur pour cette formation qui est arrivé là-bas, pas forcément par surprise, mais qui a bataillé dur pour atteindre ce niveau de la compétition qui lui va plutôt bien. Car à ce stade de la compétition, au niveau du dernier carré, le plateau est beaucoup plus relevé pour la formation angolaise.
Oui, dans l'autre confrontation, Alali s'est offert la première manche, victorieuse 2-0 face à Sétif. On attend bien évidemment ce match retour et on va parler évidemment des demi-finales de la Coupe CAF. Alors, il y avait cette incertitude, les joueurs des Nimba étaient en colère, encore une affaire de prime avant d'affronter le Raja Casablanca. Le match aurait-il bien lieu, Amine Birouk, les dernières infos en provenance du Maroc?
Ils sont bel et bien arrivés à Casablanca à la mi-journée. Ils ont été reçus. Ils logent dans un hôtel au centre de la capitale économique du Royaume du Maroc. A priori, ils ont tenu leur première séance de décrassage en milieu d'après-midi. Donc ça devrait le faire du côté de l'équipe d'Enimba qui avait menacé de boycotter la rencontre. C'est une affaire de primes, c'est une affaire d'arriérés d'argent. Et donc, a priori, tout semble rentrer dans l'ordre. Maintenant, dans quel état d'esprit les joueurs nigériens vont aborder la rencontre? Est-ce qu'ils n'ont pas laissé beaucoup d'énergie en termes de revendications syndicales avant de venir disputer cette manche retour? D'autant plus qu'ils partent avec un handicap. Ils étaient battus au match aller 1-0. Il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles face à une équipe qui surfe sur une spirale de confiance, qui joue sur 4 tableaux cette saison. Et un Raja de Casablanca qui était bien mal parti en début de compétition, qui a su trouver les ressources. Il est vrai qu'il possède des joueurs expérimentés, qui ont vécu des compétitions africaines. Certains d'entre eux ont même été de l'épopée du Raja Casablanca lors de la Coupe du Monde des clubs qui avait été organisée au Maroc en 2013. On se rappelle que le Raja avait atteint la finale. Et aujourd'hui, il y a une volonté de gagner ce titre africain et de renouer un peu avec ce palmarès. Le Raja, sa dernière prouesse remonte à l'année 2003 lorsqu'il avait gagné la défunte Coupe de la CAF face à Coton Sport Garoua. À l'époque, sur le banc de touche, s'asseyait un certain Henri Michel.
Merci beaucoup. On repart à Kinshasa. Thierry Kamboundi, bien évidemment, hein, l'autre demi-finale qui est très attendue en République démocratique du Congo. C'est bien évidemment la demi-finale entre El Masri et l'AS Vita Club au stade des Martyrs. Quelle est l'ambiance?
Ben, l'ambiance est plutôt bon enfant chez les Verts et Noirs qui ont réussi à ramener le nul de leur déplacement pour le match aller. Mais V-Club a été prévenu par l'élimination du tout-puissant Mazembe Englebert qui avait réussi le même résultat en Angola, le nul vierge, et qui s'est fait piéger au match retour à domicile à Kamalondo. Donc Florent Ibengese et Kouessé, ces poulains sont prévenus, eux qui ont repris les championnats un peu plus en retard par rapport aux autres. Ils en sont à 2 matchs, 2 victoires en 2 sorties. Ils ont plutôt bien préparé cette demi-finale retour et ils ont l'obligation de marquer des buts à la maison sans en encaisser ou en encaisser le moins possible pour valider leur billet pour la finale de cette Coupe de la Confédération. V-Club est sur une très très belle lancée. V-Club a terminé champion de la République démocratique du Congo et surfe plutôt sur une très très belle dynamique. Et au vu des résultats réalisés à domicile par cette formation, tant en championnat qu'en compétition africaine, je pense que les Verts et Noirs sont bien préparés, bien affûtés pour affronter cette demi-finale retour.
Oui, l'ami Thierry Kamboundi qui va reprendre son souffle. On va tous marquer une pause sur VOA Afrique. Allez, on va parler à présent du retour, bien évidemment, de Cristiano Ronaldo à la maison. Cristiano Ronaldo qui revient à Manchester United pour ce match de Ligue des Champions. Bien évidemment, on sait que ça chauffe du côté des Reds hein, de Manchester United. José Mourinho et Paul Pogba, bien évidemment, toujours dans le collimateur. Amine, si vous, qu'est-ce que vous attendez de ce match qui sent la poudre, bien évidemment, à Old Trafford? On rappelle que du côté mancunien, Alexis Sanchez ne sera pas présent sur la pelouse. Hein.
De même que Mandzukic, aussi l'attaquant de la Juventus, lui aussi il est forfait. Donc les deux attaquants, que ce soit Sanchez ou Mandzukic, ne seront pas là. Mais il faut retenir Nicolas Pinon que ce sera vraiment un choc, hein, puisque c'est le leader qui se déplace chez son dauphin, puisque la Juventus a réussi à faire le plein, 2 matchs de victoire, là où Manchester United avait réussi quand même à concéder le match nul face à Valence. Les Italiens ont gagné, donc ils auront un peu quand même la faveur des pronostics, mais attention, parce que Manchester United, c'est une bête blessée, puisque Mourinho est contesté par les joueurs, par les supporters, par les dirigeants du club, mais il est en train de redorer son blason après avoir fait quand même le remontada en championnat. Il est parvenu quand même à presque s'imposer face à Chelsea, parce que ce match nul ressemble à une défaite, parce que Manchester était très bien placé quand même pour gagner ce match. Donc ils seront gonflés à bloc. Ils vont essayer de jouer un match référence, battre la Juventus de Turin, battre la Juventus de Ronaldo pour pouvoir quand même repartir du bon pied. Et